de Courtoisie. Nous abordons maintenant donc la deuxième partie de cette émission, de ce libre journal des amitiés françaises, toujours en direct. Nous attendons notre invité qui a un peu de retard. Nous allons passer entre temps un petit extrait musical et nous vous reprenons très rapidement. Nous reprenons très rapidement cette émission. Mes chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous sommes vraiment désolés hein, pour cet incident et ce retard à commencer cette deuxième partie d'émission du Libre Journal des Amitiés Françaises. Malheureusement, notre invité est absent, il n'est pas là. Donc, très gentiment, Thomas Oswald, qui a plein d'histoires passionnantes à nous raconter, telles celles qu'il décrit dans son livre « Témoins de l'espérance à la rencontre des apôtres de notre temps » aux éditions Arthège, a accepté de poursuivre hein, pour un temps cette émission. Il y a encore beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de témoignages de saints, enfin de futurs saints certainement, de ces apôtres, hein, en effet, tels qu'il le décrit dans ce livre. Et il va nous parler maintenant d'un pays dont il dit que la situation ressemble par bien des aspects à la Chine. Alors c'est très surprenant parce qu'on n'imaginait pas que le pays en question, il s'agit de l'Inde contemporaine, puisse ressembler par bien des aspects donc à la Chine pour la manière dont elle traite en effet et ces minorités chrétiennes. Alors Thomas Oswald, d'abord je vous remercie d'accepter de continuer à évoquer ce sujet, qui est un sujet d'actualité, qui est un sujet passionnant, et donc avec nos auditeurs. Alors en quoi l'Inde contemporaine ressemble-t-elle par bien des aspects à la Chine en ce qui concerne la manière dont elle traite ces minorités chrétiennes, et puis en même temps évoquer ces minorités chrétiennes en Inde, qui sont-elles, où se trouvent-elles et que vivent-elles à travers un certain nombre de témoignages, parce que ces témoignages très concrets, la vie des personnes, c'est aussi l'intérêt de ce livre, parce qu'on mesure ce que vivent ces chrétiens sur place.
Alors la ressemblance avec la Chine, elle est quand même un peu ténue, mais c'est fondamentalement, c'est qu'il y a un roman national qui se construit en Inde autour du BJP, donc le parti qui possède l'essentiel des pouvoirs en ce moment. Et de même qu'en Chine, dans les deux cas, les chrétiens ne font pas partie de l'équation. Il y a des politiciens qui ne veulent pas entendre parler des chrétiens dans ce qu'ils essaient de construire dans un pays fantasmé qui n'existe pas, aussi bien d'ailleurs dans le cas de la Chine que dans le cas de l'Inde. En Inde, on va imaginer que quand on est un bon indien, c'est qu'on est hindou. Et on va raconter qu'avant, l'Inde était une nation majeure, un centre de civilisation capitale dans l'histoire du monde entier. Et on va revenir à ces temps glorieux avec une Inde nouvelle, si vous voulez. Et dans cette équation-là, bah évidemment, les chrétiens, ils ne sont pas hindous. Et puis, ils sont là, et puis ils sont là depuis longtemps. En plus, une partie d'entre eux sont là depuis 2000 ans, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ils dérangent de ce côté-là. Et ils font toutes sortes d'actions, comme des actions sociales. Les chrétiens sont surreprésentés dans les métiers des hôpitaux, dans les écoles, dans les orphelinats. Et ça, pour le BJP, c'est pas une très bonne chose, parce que ça démontre que l'État indien a failli dans la défense des populations les plus pauvres. Et donc, forcément, ces personnages-là, voient l'action de l'Église comme quelque chose qui ternit leur image. Pardon, je trouve plus mes mots. Donc il y a une série d'actions qui sont prises contre les chrétiens, en particulier ce qu'on appelle les lois anti-conversion qui s'installent. Maintenant, il y en a dans 12 des 25 États de l'Inde, si je ne dis pas de bêtises, 25.
Donc, 11 sur 28 États, 28, il y a des lois anti-conversion.
Voilà, 11 sur 28, bravo, vous avez vos notes.
Quelle est la forme de ces lois anti-conversion ?
Alors la loi anti-conversion, à la base, c'est le texte de la loi, il a l'air très propre. On dit on ne doit pas forcer quelqu'un à se convertir, donc toutes les conversions qui sont obtenues contre de l'argent ou par la force sont strictement interdites, et il y a des condamnations très graves qui peuvent être prononcées contre les gens qui ont ensuite convertir quelqu'un d'autre. Dans les faits, on se rend compte que les magistrats sont très forts pour tordre les faits, justement, et ils vont aller accuser un pasteur, un prêtre, une religieuse de conversion forcée, ou un imam ou un musulman. Mais par contre, on n'a jamais vu qu'un chrétien qui s'est converti à l'hindouisme ou un musulman qui s'est converti à l'hindouisme soit inquiété par les mêmes magistrats, si vous voulez. Donc il y a bien une justice à deux vitesses. Et ça va permettre d'attaquer justement ces actions sociales qui sont pourtant très importantes en Inde, comme les orphelinats, comme les écoles, où on dit, bah, regardez, cet orphelinat, il va s'occuper de tout le monde, y compris d'hindous. Et donc ils font ça pour convertir les gens. Et donc ça, à partir du moment où il y a cette logique-là qui entre en jeu, bah le responsable de l'orphelinat ou de l'hôpital, il va avoir une pression terrible qui va être mise sur lui par l'administration. Ça va être des permis de construire qui sont refusés, ça va être des inspections très très régulières et très tatillonnes, et ça va être même dans certains cas l'interdiction de recevoir des dons étrangers. Ils ont fait ce film-là à pas mal d'organisations non gouvernementales, et ils l'ont même fait au Filles de la Charité, ce qui est quand même un comble, qui sont nées en Inde donc. Pendant plusieurs mois, elles ont eu leur autorisation de recevoir des dons étrangers qui a été refusée, et ça a évidemment beaucoup handicapé leur action. Ça a provoqué un tel tollé que le régime a dû quand même faire marche arrière. Ça, d'ailleurs, ça démontre quelque chose, que je tiens à insister là-dessus, sur la différence entre la Chine et l'Inde. La Chine, c'est un pouvoir communiste, c'est un pouvoir centralisé et totalitaire. Les dirigeants chinois ont beaucoup plus de moyens de coercition sur leurs citoyens que ne l'ont les dirigeants du BJP. Il faut quand même pas perdre de vue cela.
Il y a quand même quelque chose qui surprend beaucoup dans ce que vous dites, Thomas Oswald, c'est que autant la Chine c'est un pays totalitaire, autant l'Inde c'est un pays supposé démocratique, et on se rend compte que dans ces démocraties, il y a des minorités qui sont effectivement persécutées, les minorités chrétiennes. Vous citez d'ailleurs dans votre chapitre, hein, ces chrétiens d'Inde exclus du nouveau roman national. Vous citez la phrase d'un député du BJP. Il faut éliminer le christianisme, sinon notre pays sera en danger. C'est quand même éliminer le christianisme, c'est très impressionnant. Alors, est-ce que notre diplomatie est au courant, est informée de ces situations et agit-elle en ce sens? Et vous, avez-vous une action justement auprès des affaires étrangères, auprès des politiques, de ceux qui peuvent influer?
On peut avoir une action pour aider concrètement les personnes, on peut avoir une action d'information. En revanche, tout ce qui pourrait ressembler à une action occidentale de coercition ou de dénonciation du gouvernement indien serait très dangereux pour les chrétiens qui vivent dans ces régions-là, à qui on dit toute la journée qu'ils sont des agents de l'Occident. Ce qui est particulièrement injuste parce qu'une grande partie d'entre eux, encore une fois, étaient là avant même qu'il y ait des chrétiens en France. Hein. Et même d'ailleurs les autres, ils se sont convertis. Cette action politique, si vous voulez, il faut un peu s'en méfier. En revanche, on a une action pour perpétuer les œuvres sociales qui sont considérables là-bas et qui, à terme, à mon avis, peuvent porter du fruit. Parce que même les cadres du BJP, beaucoup peuvent mettre leurs enfants aux écoles catholiques, parce qu'en Inde comme ailleurs, les écoles catholiques ont une bonne réputation, par exemple. Et ce sont des lieux de socialisation et des lieux où on va se connaître les uns les autres.
Mais est-ce que nos dirigeants politiques, ou les dirigeants des affaires étrangères, ou est-ce que les organismes à l'ONU ou à l'UNESCO sont conscients de ce qui se passe en Inde? Parce que quand même, vous écrivez, toujours dans ce même chapitre consacré à la situation des chrétiens en Inde, dans l'état de Manipur, au nord-est du pays, des communautés chrétiennes sont en danger de mort en raison des frictions interreligieuses et interethniques. Est-ce que il y a une prise de conscience internationale sur ce qui se passe en Inde envers les minorités chrétiennes?
Malheureusement, non. L'Inde a cette image d'être la plus grande démocratie du monde. On utilise souvent ces termes-là. Et c'est vrai qu'elle a une constitution qui est démocratique, hein, qui est calquée sur la constitution britannique.
Mais celle de l'Algérie aussi, hein. Nous évoquions tout à l'heure la
Il
situation des
suffit pas
chrétiens.
d'avoir une
La
constitution.
constitution algérienne, elle est calquée sur celle de la Ve République en France.
C'est ça. Mais il suffit pas d'avoir une constitution, si vous voulez, démocratique pour un pays démocratique. L'exemple typique de ça, c'est le Pakistan, dont on pourrait parler aussi longuement.
On pourrait en parler. On serait bien de dire deux mots, effectivement, sur le Pakistan, c'est encore pire. Hein.
Et
Oui.
profondément, l'Église pose un autre problème, c'est que la moitié des chrétiens maintenant sont des dalits, des intouchables. Et ça, c'est insupportable pour les Indiens, de voir des intouchables qui accèdent à des hauts postes et une religion qui dénonce radicalement le système des castes. Ils ont quand même du mal avec ça. Parce que même si officiellement les castes sont abolies et sont même interdites, dans les faits, ça reste profondément ancré dans la mentalité de toutes les personnes du sous-continent asiatique, aussi bien les Sri Lankais, les Indiens que les Pakistanais, pas les Sri Lankais, pardon, aussi bien les Bengalis les Indiens que les Pakistanais.
Et effectivement, c'est le message d'un auditeur, la question d'un auditeur. Bonsoir à nouveau. Parmi les convertis, quelles sont les castes les plus représentées?
Les Dalits, les intouchables, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de caste. Hein,
ce sont pour quelle raison? Parce que ce sont les plus pauvres et qu'ils ont découvert que la religion chrétienne, justement, il y avait ce respect de la dignité humaine.
Oui, probablement.
C'est la raison qui les pousse à se rapprocher?
On ne peut pas sonder les cœurs et les reins. On ne peut pas savoir ce qui pousse une conversion. Mais dans le cas des intouchables, c'est sûr que on leur a enseigné tout le temps qu'ils étaient rien, qu'ils valaient rien au sein de la société. Mmh. On leur donnait les métiers les plus méprisables. Et là, il y a des missionnaires qui leur expliquent qu'ils sont créés à l'image de Dieu et que Dieu est mort pour eux. Évidemment, il y a, si vous voulez, une vérité qui est plus agréable à entendre que l'autre, hein, ça c'est certain. Donc les intouchables, les Dalits, ont eu intérêt à rentrer dans l'Église, ça c'est certain. Puis les missionnaires sont allés vers eux. Je lisais les lettres de Saint François Xavier, on voit bien que les missionnaires qui étaient des vrais beaux missionnaires comme ça, ils allaient voir les plus pauvres des plus pauvres. Et les plus pauvres des plus pauvres, c'était évidemment ceux qui étaient les sans-caste. Mmh.
Souhaitez-vous ajouter quelque chose sur l'Inde?
L'Inde, oui, il y a des distinctions à faire entre justement la région du Manipur dont on parlait et le reste de l'Inde. Le Manipur, c'est cette région qui est à l'extrême nord-est du pays. Et là, il y a des conflits interethniques entre chrétiens et hindous. Il y a aussi des conversions très importantes parmi des ethnies qui sont considérées comme normalement hindous, et c'est ce qui cause en partie les frictions, parce qu'on ne supporte pas de voir ces conversions arriver. Et cette situation particulière est très différente de ce qui se passe au nord de l'Inde, où la question principale, c'est les lois anti-conversion, c'est des pogroms qui peuvent arriver. Et il y a encore une situation différente au sud de l'Inde, dans l'état du Kerala, par exemple, où pour le coup, les chrétiens sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus tranquilles.
Oui, là c'est historique. Hein. Le christianisme s'est implanté tout d'abord là-bas, au Kerala, non?
C'est ça, oui.
Et là, ils sont nombreux, effectivement.
Tout à fait. Et là, on a une église ancienne, on a des Malabar, hein, qui sont là depuis longtemps. Et puis les Portugais sont arrivés en premier, effectivement, dans l'Inde sud-occidentale.
Le clergé est local ou ce sont des missionnaires
Le clergé est local très très largement, oui.
Oui. Ce sont eux qui provoquent les conversions par leur...
Ils n'ont pas intérêt à le faire. Hein. Ils ont beaucoup de pression de
oui, mais pourtant, vous expliquez qu'au Manipur, il y a beaucoup de conversions.
Ce qui provoque les conversions, c'est Jésus. Hein. Après, il y a effectivement des témoignages qui peuvent amener à avoir des conversions. Selon mon expérience, je n'ai pas été dans le Manipur, selon mon expérience, les prêtres catholiques ne vont pas convertir dans les rues parce qu'ils ont... ils sont très visibles, ils sont très... donc c'est dangereux. Les catéchistes peuvent le faire peut-être plus facilement. Mmh. Et ceux qui convertissent, en général, ce sont souvent plutôt les pasteurs protestants à la limite, qui ont plus de marge de manœuvre.
Pour quelle raison d'ailleurs?
Parce que le prêtre catholique, il est enregistré auprès du gouvernement, on le connaît. Et donc quand il y a un gouvernement qui se méfie des conversions, il va être surveillé. Ça arrive qu'il y ait des prêtres catholiques qui convertissent, mais très souvent, c'est les convertis qui viennent les voir, c'est pas eux qui vont dans les rues pour aller convertir, justement. Mmh. Et parce qu'ils savent qu'ils sont surveillés. Et très souvent, ils sont débordés, complètement débordés. Ils n'ont pas tellement le temps de faire du porte-à-porte.
Évoquons votre action en Inde, l'AED. Que faites-vous, par exemple? Quelques exemples?
Beaucoup de formation des prêtres, ça reste formation des prêtres, formation des religieuses, c'est un sujet absolument indispensable.
Mais comment faites-vous cette formation? Comment assurez-vous?
On va soutenir les séminaires, on va donner des bourses aux prêtres, aux religieuses qui veulent se rendre en Occident pour apprendre.
Oui.
C'est ce genre de choses. C'est absolument indispensable d'avoir des prêtres et des religieuses bien formés, justement. Parce que si on veut que la foi soit répandue correctement, qu'il n'y ait pas de fausses idées, il faut que l'accent soit mis là-dessus, absolument.
Alors nous pourrions aussi évoquer la situation des chrétiens, des minorités chrétiennes dans le pays voisin qui est le Pakistan, où vous écrivez dans le chapitre que vous consacrez à ce pays que les chrétiens sont vus au Pakistan comme sales et impurs. Et vous citez bien sûr un certain nombre de cas, le cas bien connu d'Asia Bibi, qui a été condamné à mort.
Qui est qu'un exemple parmi d'autres.
Mais il y a bien d'autres cas encore, je renvoie à la lecture de votre chapitre, Thomas Wall, mais il nous faut évoquer, c'est important, la situation au Moyen-Orient, et notamment en Syrie, On se pose beaucoup de questions sur la situation des chrétiens maintenant en Syrie, depuis la victoire d'Ahmed al-Sharaa. Que racontez-vous sur la situation des chrétiens en Syrie? Rappelons qu'en Syrie, 10% de la population en 2011
Oui.
était chrétienne, ce qui est très important aujourd'hui. Ils sont moins de 3%. Quelle est la situation des chrétiens en Syrie depuis la prise du pouvoir par le al-Sharaa?
Bah, il y a une situation de très grande peur parce qu'ils savent qu'à tout moment, la situation peut exploser et il peut y avoir des groupes armés, là un peu comme en Congo, on ne sait jamais qui est qui. Ils ont tous des uniformes disparates, ils sont tous surarmés et du jour au lendemain, on peut avoir un groupe armé qui s'énerve contre telle ou telle population chrétienne. Il y a régulièrement des cas de chrétiens qui sont lynchés et sans qu'on sache jamais si c'est du gangstérisme ou de l'islamisme. Et l'expérience prouve que les deux concepts sont très poreux. C'est pas du tout imperméable, le gangstérisme et l'islamisme.
Ah bon, et quelle forme prend l'islamisme? Quelle forme prend le gangstérisme?
Bah, c'est. Quand il y a un chrétien qui a une belle maison, un beau tracteur et qu'on a envie de lui piquer, on peut très bien dire que c'est comme c'est un
Oui.
mécréant, on peut aller l'exécuter et ça va bien,
Oui.
quoi. Ou qu'un chrétien a une jolie fille.
Oui.
Bah, on va aller lui prendre sa fille parce que de toute façon c'est du butin et que c'est autorisé donc on peut y aller quoi. Donc vous voyez qu'il y a, enfin, c'est assez poreux quoi et c'est difficile souvent de faire la part des choses. L'expérience prouve d'ailleurs qu'on a dans le Sahel typiquement des gens qui basculent d'un camp à l'autre assez facilement et des groupes armés qui vont s'adonner au trafic de drogue et puis le lendemain vont prétendre répandre la bonne parole dans le village à côté si vous voulez.
Alors vous écrivez que vous parlez des assassinats, des enlèvements, des attentats, et qui touchent spécifiquement les chrétiens. Il y a vraiment une discrimination
Au Moyen-Orient, vous voulez dire? Ou en Syrie, plus spécifiquement, oui.
en
Oui.
Syrie. Depuis justement qu'al-Sharaa a pris le pouvoir, est-ce que la situation des chrétiens a fondamentalement empiré?
Il y a des cas disparates pour le moment, heureusement pas généralisés.
Oui.
Il y a eu un attentat à Damas il y a 2 ans, et c'était la première fois que c'était arrivé, majeur contre les chrétiens, un gros attentat. Il y a des événements, si vous voulez, comme ça, qui sont ponctuels et qui sont inquiétants. Mais ce qui est, à la limite, moi, ce qui m'inquiéterait le plus, c'est de voir au quotidien le mépris dont ils sont l'objet, ces chrétiens, parce qu'ils appartiennent à une ethnie qui est méprisée, et parce qu'ils sont chrétiens. Ils sont méprisés par leurs voisins, et ça, c'est dur à vivre au quotidien. Et c'est très inquiétant parce qu'on sait que du jour au lendemain, s'il y a un problème dans le pays, on va pouvoir les utiliser comme bouc émissaire, on va pouvoir leur piquer tout ce qu'ils ont.
Mépriser, quelle forme prend ce mépris très concrètement dans leur vie quotidienne?
Ça veut dire que quand vous êtes chrétien, il y a des postes auxquels vous accéderez jamais, même si vous êtes très très bien formé. Ils le sont d'ailleurs. En plus, en Syrie, il y a des chrétiens qui font souvent partie des gens très éduqués. Ça veut dire aussi que il y a de la pression qu'on va vous mettre. Il y a un voisin qui va vous dire, fais attention à toi, il pourrait t'arriver un truc. Ou des gangs à moto qui vont circuler dans la rue en disant, convertissez-nous, vous, sinon on va vous massacrer dans 3 jours. Dans 3 jours, il se passe rien, mais ils sont quand même passés, c'est resté dans les têtes.
Oui.
Voilà, c'est cette pression-là au quotidien qui doit être excessivement difficile à vivre. Et puis, les rackets, enfin, toutes les formes que peut prendre l'oppression systématique contre une population qui est considérée comme inférieure. Les chrétiens ne sont pas les seuls à subir ça, hein. Les Alaouites subissent une pression encore plus grande parce qu'ils étaient complètement associés au régime de Bachar al-Assad. Les Druzes subissent une pression importante, mais les chrétiens subissent cette pression-là régulièrement, oui.
Vous écrivez, nous sommes émerveillés par le courage de nos frères chrétiens, puisque vous évoquez les apôtres de notre temps. Quel exemple particulièrement voudriez-vous mettre en avant, édifiant pour les
Alors,
auditeurs?
il y en a beaucoup. Il y en a une petite religieuse carmélite, petite de taille, hein, je
Oui.
précise, que j'ai rencontrée,
Oui.
qui était dans la région d'Alep. Elle nous a envoyé une photographie d'elle un peu après qu'on l'ait visitée. Il y avait un missile de l'URSS, un truc énorme, qui devait faire 3 mètres de haut, qui avait atterri dans le jardin du Carmel et s'était prise en photo à côté du missile, qui n'a pas explosé, grâce à Dieu. Et la différence de taille entre cette religieuse et les missiles était presque comique. C'était presque grotesque de voir ça. Cet engin-là qui enfin, moi je ne pensais pas qu'on pouvait lancer des trucs de cette taille-là, comme ça, atterri dans le jardin du Carmel. Il y avait une différence graphique presque entre cette toute petite religieuse toute fripée minuscule et cet énorme missile. Et elle, comme elle dit, bah lui il a pas explosé, moi je suis toujours là, donc il a raté son coup et je serai toujours là. Donc je trouvais cette image là assez frappante. Et elle reste, donc elle est à côté d'Alep et elle continue à prier. D'autres religieuses, là c'est à Homs. Homs, c'est l'épicentre de la guerre civile qui a commencé en 2011 entre le régime de Bachar al-Assad et les divers groupes extrémistes, donc notamment le Front al-Nusra, dont est issu l'actuel président. Homs a été détruite à un tiers, et un tiers de la ville où il n'y a pas pierre sur pierre. Et quand j'y suis allé, c'était en 2022, donc normalement tout aurait dû être reconstruit, la guerre était finie à Homs depuis 7 ans, rien n'avait été reconstruit, tout était encore en état. Et ces religieuses qui vivaient dans cette région-là, elles ont été là à 2014-2015, donc quand la ville était assiégée et quand c'était la pire période, et leur métier, ça a été de s'occuper des handicapés mentaux dont elles avaient la charge. Donc tout le monde luttait pour leur survie. Chacun était en train de se demander s'ils allaient pouvoir manger, s'ils allaient pouvoir avoir de l'eau potable. Il n'y avait évidemment plus d'électricité. Et elle continuait à s'occuper de ces personnes dont aucune société ne s'occupe bien, hein, parce que les handicapés mentaux sont souvent les dernières personnes dont on s'occupe. Et malgré ces conditions absolument drastiques, elles sont restées sur place. Et quand je leur demandais, bah, pendant le siège, c'était quoi le plus dur? Est-ce que c'était le manque d'électricité, le manque de nourriture, le manque d'eau? Ils disaient, non, le plus dur finalement, ça a été qu'on ne pouvait pas sortir. Et nos enfants qui ont un handicap, on pouvait pas les laisser jouer dehors. Ils avaient du mal avec ça. Pour elles, c'était ça qui avait le plus dur. Je trouvais ça complètement déconnecté de la réalité et en même temps merveilleux parce qu'elles avaient vraiment à cœur de s'occuper juste de ces personnes au point d'oublier leur propre situation.
Comment aidez-vous les
Alors,
chrétiens
elle, là,
en
c'est
Syrie?
l'association du CNV et très concrètement, on les aide
Oui.
financièrement. On les
Ça.
aide financièrement pour qu'elles puissent, elles puissent continuer à s'occuper des personnes dont elles s'occupent. À l'origine, elles sont occupées d'abord de deux handicapés, puis petit à petit, c'est devenu énorme. Maintenant, il y en a plus de 200. Et donc, on les aide financièrement pour qu'elles puissent continuer à faire cette œuvre sociale-là. Et on espère que ça va continuer encore longtemps parce qu'elles font un travail extraordinaire.
Bien. Thomas Oswald vous propose d'évoquer, avant de donc terminer cette discussion, d'évoquer aussi toujours le Moyen-Orient à travers deux exemples, ce qui se passe en Palestine, parce qu'il y a des villages chrétiens en Palestine. Vous évoquez par exemple le village de Taïbé, au
Oui.
nord de Jérusalem, hein, qui est la dernière enclave entièrement chrétienne de
C'est ça.
Cisjordanie. Je pense qu'il est important de connaître la situation des chrétiens dans ce village de Taïbé. Peut-être un mot sur le Liban, et puis nous vous libérons, vous remercions d'avoir accepté de poursuivre
Avec
cette
plaisir. Non,
discussion.
il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais concernant Taïbé, c'est très typique parce que c'est effectivement le seul village entièrement chrétien. Il y a beaucoup
Donc en
d'autres villages.
Palestine, hein, on est en
En
Cisjordanie.
Cisjordanie, voilà. Il y a beaucoup d'autres villages où il y a des chrétiens. Il y a Bethléem, évidemment, mais à Bethléem, ils sont plus majoritaires. Taïbé, ça reste entièrement chrétien. Et ils sont entourés partout par soit des villages musulmans, soit des colons. Et malheureusement, ce village se voit retirer petit à petit tout ce qu'il a. Donc les colons ont pris la source d'eau. Et c'est maintenant eux qui décident à quel moment on a de l'eau potable, à quel moment on n'en a pas. Et maintenant, les chrétiens ne peuvent plus aller cultiver leurs olives, ne peuvent plus ramasser leurs olives parce que régulièrement, il y a des colons qui leur lancent des pierres et même maintenant qui leur tirent dessus. Et malheureusement, ces actions-là, de tirer sur un gars qui est en train de ramasser ses olives de son olivier, que son père lui a légué et qu'il est là de père en fils depuis des générations jusqu'à Abraham pratiquement, c'est plus possible parce qu'on leur tire dessus et quand ils vont voir la justice israélienne, il n'y a rien qui se passe. Les colons ne sont jamais condamnés. Donc ça, c'est une situation qui est excessivement injuste et excessivement pénible à vivre. Et ils voient cet étau qui se resserre autour d'eux. Et malgré ça, ils essaient de rester. Il faut vraiment avoir envie pour rester là-bas parce qu'ils ont en face d'eux des colons qui sont très hostiles et qui ont clairement comme agenda de les virer d'ici. Et
Comme de
l'autorité.
beaucoup d'endroits de Cisjordanie. Il y a de nombreux articles, notamment dans le Figaro, qui décrivent la situation des Palestiniens en Cisjordanie, régulièrement attaqués par les colons de manière extrêmement violente, hein, des
Oui.
chambres brûlées, des assassinats. C'est impressionnant. Et dans la passivité de la justice et sans aucune réaction de l'armée ni de la police israélienne.
Absolument, absolument. Il y a vraiment un agenda de toute évidence de vider ces terres-là
Oui.
et d'installer des colons à la place. Ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on le voit maintenant au Liban où il y a des champs qui sont phosphatés, il y a des oliviers centenaires qui sont déracinés.
Au Liban aussi.
Au Liban, ça c'est oui, au Liban.
Sur le site Liban, sans
sur
doute.
Le site Liban, ouais. Sur le site Liban, il y a des terres qui sont dévastées. Et je ne veux pas croire qu'il y a, il y a un militant du Hezbollah sous chaque olivier qui est déraciné, si vous voulez. Donc, il y a de ce gouvernement israélien-là, de cette administration en ce moment, une volonté de, effectivement, détruire la présence de ce qui n'est pas israélien et d'installer des colons à la place. Donc, les chrétiens de ces régions-là sont dans une situation, effectivement, très, très inquiétante. Il y en a même à Gaza, dont on parle un petit peu dans le livre.
Oui. Certains chrétiens à Gaza.
On n'imagine pas, mais il y a des chrétiens effectivement à Gaza qui sont à la paroisse de la Sainte Famille et qui perdurent. Là, il faut vraiment être accroché pour tenir dans.
Parce qu'ils sont ils sont pris en étau.
Complètement. Mais comme tous les Gazaouis, mais ils sont complètement pris en étau. Même les sorties qu'ils pouvaient encore faire au moment des grandes fêtes, ils pouvaient sortir pour aller voir leur famille à Noël. Bah ça leur est systématiquement refusé. Donc c'est une atmosphère carcérale, au fait, qui est dur à vivre. Là, le père Romanelli, qui nous parle assez souvent, qui nous fait l'amitié, malgré son emploi du temps chargé, c'est le curé de la paroisse de Sainte-Famille, il nous écrit de temps en temps, il nous écrivait que à la rentrée dernière, il avait pu faire une expédition pour aller voir la mer avec certains enfants, et beaucoup d'entre eux n'avaient pas vu la mer. La mer, elle est à 1,5 km de sa paroisse, mais ils ne peuvent pas sortir, en fait. C'est une prison à ciel ouvert.
Et donc l'AED aide à toutes ces populations, que ce soit à Taïbé, en Cisjordanie, dans le sud Liban, et aussi à Gaza.
C'est ça.
L'AED intervient aussi.
C'est ça, on les soutient, on soutient la formation des prêtres et religieuses, on soutient certaines écoles, et on fait de l'aide d'urgence, le cas échéant, quand ça se présente. Oui.
Thomas Oswald, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous ce soir et d'avoir accepté de prolonger cette émission autour de votre livre, ce livre passionnant et très émouvant, témoin de l'espérance à la rencontre des apôtres de notre temps, que vous publiez aux éditions Arthège. Vous reviendrez, de toute façon vous allez revenir pour nous parler aussi de vos romans graphiques.
Avec
de
plaisir.
Très beaux témoignages, nous aurons un grand plaisir à vous recevoir à nouveau. Un grand merci à nouveau, nous faisons une petite pause avec un message de la radio et nous écouterons donc les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach jouées par Glenn Gould au piano. Merci encore à vous.
Hein, Thomas. Merci à vous.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons cette émission. Notre invité est au téléphone avec nous, donc nous allons le recevoir à travers donc, ce support. Je rappelle que nous avons la chance d'avoir Laurent au standard. N'hésitez pas à lui envoyer vos questions, vos messages. Nous les proposons à notre invité, 01 46 51 00 85, donc par téléphone ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr. N'hésitez surtout pas à profiter de la présence de Laurent. Donc nous abordons maintenant la deuxième partie, avec un peu de retard donc, de cette émission. J'aimerais évoquer effectivement, pour introduire les propos que nous allons tenir, effectivement La Fontaine, évoquer La Fontaine qui est vraiment toujours aussi moderne et universelle, particulièrement à travers cette fable, la cigale et la fourmi, parce que la situation économique de la France s'aggrave et l'État nous semble être un peu comme la cigale de La Fontaine, parce qu'il est confronté à la bise est venue, et la bise de la récession notamment, et la France semble en effet bien prise au dépourvu. On ne peut que regretter que la lecture éclairée de La Fontaine, celle que comprend n'importe quel enfant, ne semble pas faire partie des lectures de nos trop nombreux, dirigeants, en tout cas politiques, en France. Car en effet, le pays le plus cigale dans le monde, c'est bien la France, c'est le pays où on travaille le moins au monde. Et cette bise, nous la connaissons, celle qui souffre actuellement, c'est celle des conflits incessants qui provoquent l'inflation, qui provoquent la hausse des coûts de l'emprunt et durant les deux trimestres actuels, la récession, la cigale pourra-t-elle continuer à chanter? C'est la question que l'on peut se poser parce que la voie de l'économie française s'éraille sans roue. Un exemple tout récent dans l'actualité, c'est l'annulation du programme SCAF par l'Allemagne. Vous savez, le SCAF, c'est le programme de l'avion futur qui doit remplacer le Rafale. Eh bien, l'Allemagne se retire, et ce que disent les commentateurs éclairés, eh bien, c'est qu'en France, effectivement, on a des savoir-faire. Dassault, bien sûr, a montré toute la maîtrise qu'il avait de ses métiers et la capacité qu'il a à bâtir un avion futur. Mais ce qui manque, ce sont les moyens d'investir, parce qu'il n'y a plus du tout d'argent dans les caisses. Et ces quelques exemples illustrent bien ce que disait le général de Gaulle. Le meilleur moyen pour un pays de perdre sa souveraineté, c'est de s'endetter. Et nous y sommes. Alors nous accueillons d'autant plus favorablement la parution d'un livre qui est passionnant, qui est salutaire, qui est très pédagogique sur la manière de restaurer la souveraineté économique et notre compétitivité. Il s'agit du livre que publie Xavier Fontanet aux éditions Valeurs Ajoutées. C'est un nom d'édition tout à fait d'actualité, tant le problème effectivement, des économies françaises, c'est qu'elles ne créent pas assez de valeur. Et ce titre, le titre de ce livre, c'est « Le grand-père et le président ». Vous me direz encore un livre sur les solutions à apporter pour restaurer l'économie française. Mais celui-ci est particulièrement intéressant par sa forme. C'est une forme qui est très originale, qui est captivante, qui est très vivante. Et c'est écrit par un grand homme d'action, un grand patron d'entreprise, unanimement reconnu pour son efficacité, mais aussi son humanité, au service de tous les acteurs de l'entreprise, des entreprises qu'il a dirigées. Il a dirigé Cilor. Cilor, c'était une coopérative lorsqu'il en est devenu le patron, et il l'a mené à devenir le numéro un mondial des verres ophtalmiques face à des concurrents extrêmement compétitifs au niveau mondial, des concurrents américains, australiens et japonais. Donc l'auteur de ce livre, Le grand-père et le président, c'est Xavier Fontanet. Nous avons donc le plaisir de le recevoir par téléphone, certes avec un peu de retard, chers auditeurs, nous en excusons. Xavier Fontanet, bonsoir.
Bonsoir, alors c'est moi le coupable du retard, hein, donc merci à la flexibilité de Radio Courtoisie, ben bonsoir et je suis ravi de pouvoir discuter avec vous.
Eh bien écoutez, c'est un plaisir partagé, c'est un plaisir qui sera plus court que prévu, puisque nous aurons simplement une moitié d'émission à passer en votre compagnie, Xavier Fontanet, pour évoquer ce livre qui est particulièrement intéressant parce qu'il parle beaucoup d'économie, il ne parle pas que d'économie D'ailleurs, c'est toute votre vision de l'homme, de la France, de l'Europe que vous proposez. Je rappelle aux éditeurs de Radio Courtoisie, qui vous connaissent bien, parce que vous venez régulièrement dans le studio, oui. Et puis j'ai moi-même le plaisir de vous recevoir de nombreuses reprises, que vous êtes l'ancien PDG du groupe Essilor, que vous avez dirigé de 1991 à 2010, donc une vingtaine d'années durant lesquelles vous avez amené Essilor, effectivement, à cette position de numéro un mondial dans un secteur d'activité difficile avec des concurrents extrêmement performants. Vous êtes depuis ce temps toujours extrêmement actif puisque vous êtes professeur associé de stratégie à HEC Paris. Vous êtes chroniqueur régulier aux Échos et vous êtes aussi l'auteur de très nombreux ouvrages consacrés justement au monde économique, ouvrages dans lesquels vous faites preuve d'une très grande pédagogie pour expliquer justement ce qu'est que le fonctionnement d'une entreprise, de l'économie et l'importance de la compétitivité. J'en citerai simplement quelques-uns. Le tout dernier en 2024 de la stratégie en entreprise que vous avez publié aux éditions Manitoba, et puis aussi donc un certain nombre d'ouvrages où vous vous inspirez de votre expérience du monde des affaires, tant chez Beneteau qu'au BCG, le fameux Boston Consulting Group, qui est la référence du conseil en stratégique, et bien entendu à votre expérience d'Essilor. Alors, conquérir le monde avec son équipe, la fabuleuse histoire d'Essilor, ça c'est en 2021 que vous avez publié aussi aux éditions Manitoba, et le premier aussi, et si on faisait confiance aux entrepreneurs, l'entreprise française et la mondialisation que vous avez publié aux belles lettres en 2010. On pourrait en citer bien d'autres encore. Alors, Xavier Fontanet, je vais vous poser la question traditionnelle. Pourquoi ce livre, hein? Vous expliquez d'ailleurs que cet ouvrage est né d'une conviction. Alors, je vais vous demander de quelle conviction s'agit-il. Et ce qu'apporte aussi ce livre de différents de ceux que vous avez déjà publié précédemment sur les nécessaires réformes de l'économie française.
Alors, écoutez, donc, merci beaucoup. Ce livre, en fait, c'est très original. Ça a commencé par des éditos. Les gens de Contribuables Associés m'avaient demandé de faire des éditos. Et je leur ai dit, écoutez, je suis d'accord de vous faire des éditoriaux. Mais si vous voulez, c'est surtout ma lutte contre les impôts, en fait, c'est de l'humanisme. C'est-à-dire que si l'État s'étend, parce que monter les impôts, c'est parce que l'État étend son territoire dans l'ensemble de l'économie et a besoin de plus en plus d'argent, et cette extension de l'État, en fait, se fait au détriment de décisions que nous pourrions prendre librement. Hein, l'État a le monopole du domaine dans lequel il exerce, et donc, au fond, plus l'État s'étend, plus ça réduit la personnalité, ça réduit les prises de décision. Et au fond, j'ai dit, je veux bien faire des papiers, si c'est de l'humanisme, hein, c'est au titre de l'humanisme, voilà. Hein. Donc c'est pas de la rapacité pour pas payer d'impôts, pas du tout. Il faut des États, il faut un État, il faut un État puissant et efficace. Mais il faut savoir dans quel domaine il intervient. Et donc en fait, ce qui s'est passé, qui était complètement imprévu, c'est que j'ai fait 4 éditos qui ont eu des courriers inimaginables. Les gens répondaient, ils ont eu 150 lettres, j'ai des lettres de 25 pages commentant mes éditos. Et alors, le truc très, très amusant qui est arrivé, c'est que les lecteurs ont dit « Mais écoutez, parlez de ce sujet. » Et donc, je suis arrivé à 20 éditos. Et ces éditos, ils ont été, en fait, programmés par les lecteurs. Ils voulaient discuter avec moi et me proposaient d'autres champs d'expression. Et puis, alors, un jour, il y a un monsieur très, très important qui est venu me voir, qui a dit « Monsieur Fontanet, je lis ces éditos, c'est passionnant. Rajoutez 3 sujets et je vous édite. » Et c'était un homme qui avait une maison d'édition, VA Édition, et qui m'a dit « Écoutez, je suis prêt à vous éditer ». On s'est mis d'accord avec Contribuables Associés, et c'est comme ça qu'est né Le Grand-Père et le Président. Mmh. Alors, oui. L'astuce, si vous voulez, c'est un dialogue fictif. Hein, c'est un dialogue fictif et, entre un grand-père, donc qui est grand-père, il est provincial, il a monté une très belle entreprise, une petite entreprise, mais leader mondial dans son domaine. Il a eu des filles douées qui sont montées à Paris. Il a un petit garçon très doué qui a fait l'ENA, inspecteur des finances, cabinet ministériel, et est devenu président de la République. Alors, il est un peu perdu, hein, et en fait, il demande à son grand-père des conseils. Et alors, c'est une façon de parler de tous les sujets Alors moi, je suis fier de mon petit-fils. Je connais ses limites parce qu'il est quand même très parisien, qu'il n'a pas beaucoup voyagé. Et par contre, je l'aime bien. Et puis, mon petit-fils aime bien le grand-père. Et donc, c'est un dialogue très apaisé. Mais ça, on parle de tous les sujets. Voilà l'origine du livre.
Comment l'idée vous est venue de cette fiction entre un grand-père et son petit-fils, président de la République? C'est une forme très particulière.
Alors, j'aime beaucoup, si vous voulez, vous avez sûrement vu le souper qui est un dîner, un dîner fictif entre Talleyrand et Fouché. À la mort de Napoléon, Talleyrand et Fouché, qui étaient des types épouvantables, mais qui étaient des types assez géniaux, mais épouvantables. En fait, ils racontent toute la vie de Napoléon et tout ce qu'ils ont fait pendant cette période. Et donc, c'est un échange. Je me suis dit que, au fond, l'idée de faire un dialogue fictif était un dîner. Alors, j'avais connu Emmanuel Macron parce que j'étais à la commission Attali. Et donc, j'ai eu évidemment énormément d'occasions de discuter avec lui. Alors, ça s'est arrêté quand il a été élu, mais il y avait déjà un énorme background de décision. D'ailleurs, j'ai envoyé le livre à Emmanuel Macron.
Il a réagi.
Bien sûr, il m'a renvoyé un petit mot manuscrit d'ailleurs.
Oui.
Bon, je ne pense pas qu'il m'a dit, parce qu'il a trop de chat fouetté, mais il avait quand même lu des passages, parce qu'il y avait des petits mots assez marrants. Mais j'avais dit, Emmanuel, président, c'est des discussions qu'on aurait pu avoir, trois petits points. Alors, il a répondu de façon humoristique. Et donc, voilà. Donc, ce livre apporte les gros sujets, si vous voulez.
Gros sujets. Vous avez pensé à Emmanuel Macron en créant le personnage d'Antoine, du petit-fils, hein, parce que on le reconnaît pas trop, hein, franchement. Autant vous arrivez à convaincre Antoine, visiblement, de ce que vous lui suggérez, on dit qu'on est quand même très loin de la politique qu'a menée Emmanuel Macron pendant 10 ans.
Voilà, alors, c'est peut-être ça qui est intéressant, si vous voulez, parce que effectivement, alors, on va distinguer tout ce qui est politique intérieure et politique internationale. Donc, le bouquin parle des deux. Alors, si vous voulez, en fait, le plus important, c'est que il y a une perspective dans tout ça. Le monde est un monde tout à fait imprévisible. Hein. Ça bouge à toute vitesse. Ça fait rarement qu'il n'y a pas eu tant d'imprévisibilité. Et c'est le moment où il faut se reconcentrer sur ses valeurs profondes. Cette personne est capable de dire ce qui va se passer dans 10 ans. Par contre, il est très important de dire sur quelles valeurs profondes on va se reposer pour aborder les années qui viennent. Et alors, j'ai eu la chance, moi, de travailler dans le monde entier. Et je suis fier d'être français et fier d'être européen. Et cette fierté, je l'ai acquise quand on a commencé à vendre dans le monde entier. Donc, bien sûr, aux États-Unis, ça, c'était dans les années 90-95. Après, on a conquis l'Asie dans les années 2000. On est devenu une très, très grosse entreprise en Chine et en Inde dans les années 2015. Et c'est en me confrontant à tous ces peuples extrêmement différents, les Américains, les Coréens, les Japonais, les Chinois, les Indiens, que j'ai compris où était la spécificité de l'Europe et la spécificité de la France. Alors, malgré tous les problèmes, je pense que Français et Européens, il y a énormément de talent. C'est pour l'instant un peu foutoir à cause de gouvernance compliquée, mais je suis un homme assez positif, si vous voulez, et je pars des talents de la France et de l'Europe. Alors, l'Europe, si vous voulez, c'est une construction extraordinaire qui a commencé il y a 2500 ans. Pour moi, c'est Socrate qui est vraiment le fondateur de l'Europe, parce que c'est une question. Il a posé des questions, il a causé le doute. Et avant, tout le monde vivait dans la mythologie. Il y a encore des peuples qui vivent dans la mythologie. Et en fait, Socrate a sorti la Grèce du monde de la mythologie pour commencer à dire on va réfléchir, on va se poser des questions. Puis après, vous avez évidemment Aristote qui a piloté Alexandre. Et puis après, il y a eu Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin, donc l'Église a commencé à s'intéresser aux problèmes de l'État. Puis il y a eu après Voltaire, Kant, Spinoza, Hegel, et donc qui ont fait évoluer les esprits. Je pense que la religion, donc elle est très importante, et l'Europe est chrétienne d'origine, mais c'est personnel. On a installé un État de droit et avec une la religion est fondamentale, elle structure les gens, mais c'est personnel. Et on a monté un système fantastique. Alors, avec tous ses défauts, à condition d'arranger 3-4 trucs, je pense que pour que la France soit écoutée en Europe, il faut qu'elle ait des comptes en ordre. Donc ça, c'est toute la partie, comment est-ce qu'on remet le pays debout. Et ensuite, une fois qu'on a l'Europe, moi je pense que l'Europe a des atouts, elle est tout à fait capable de tirer son épingle du jeu face à tout le monde. Mais pour que l'Europe participe à ce grand élan, pour que la France participe à ce bilan, il faut qu'elle mette ses comptes en ordre. Voilà. Et là, on est ramené à des sujets plus concrets.
Je voudrais...
C'est long, hein.
Oui, c'est important. Je voudrais souligner quand même la superbe préface écrite par Jean-Baptiste Léon. Dans votre livre, qui est le directeur des publications donc, de Contribuables Associés. Et je vais en lire un extrait, si vous le voulez bien.
Allez-y.
Ce livre de Xavier Fontanet est un acte de résistance intellectuelle. Il refuse l'étatisme niveleur, le déclin accepté, la résignation en costume. Il rappelle que les choix économiques engagent une vision de l'homme, qu'à force de remplacer la confiance par la norme, la liberté par la procédure, la responsabilité par la compensation, on détruit ce qu'on prétend protéger. Et il montre, par la force tranquille d'un dialogue intergénérationnel, qu'une autre voie existe, celle du réel, du courage et de la dignité. La France n'est pas condamnée, elle a les ressources pour rebondir, mais à une condition, cesser de traiter des libertés comme un luxe et le contribuable comme une variable d'ajustement. Ce livre aide à remettre les choses à l'endroit et surtout à replacer l'être humain au centre de toute politique.
Remarquable. Vous avez raison, remarquablement lu, et ce texte, d'ailleurs cette partie de l'introduction, ça exprime exactement l'état d'esprit dans lequel s'est fait le livre. Exactement.
Okay. Alors nous allons rentrer, si vous voulez bien rentrer dans ce livre, mais quand vous dites, Xavier Fontanet, je suis un peu provocateur, pardonnez-moi, hein, que l'Europe, justement, c'est la sortie de la mythologie, avec Socrate, etc. Vous citez aussi, par ailleurs, saint Thomas d'Aquin, et d'autres encore, comme saint Augustin. Mais en matière économie, on a l'impression d'être toujours dans la mythologie en France, hein, quand même. Il suffit de voir tous les débats ces deux dernières années, que la France était au bord du gouffre.
Alors,
termes économiques, on a vraiment toujours l'impression d'être dans la mythologie, avec les Piketty et autres théories de confiscation.
Alors, je vais vous dire, je pense que pour réfléchir à la stratégie, il y a le problème d'horizon de temps. Je pense que les bêtises, ce dont on souffre aujourd'hui, les bêtises datent de 50 ans. Il y a trois bêtises. Alors je pense que la France est bien connue du temps de Général de Gaulle et de Pompidou. C'était vraiment une période où la France marchait très très bien. Même sous la 4e République où l'État était très très réduit, l'économie a très très bien marché. La France avait démarré après la guerre avec une dette très importante, c'était le plan Marshall. Et elle a passé son temps à réduire la dette avec une forte croissance. Et quand vous réduisez la dette avec une croissance, c'est qu'on a une rentabilité, vous voyez. Et en fait, je crois qu'il y a eu trois bêtises. La première bêtise, il faut nommer les choses, je pense que c'est Giscard d'Estaing. La première bêtise, pour se démarquer de Pompidou et de Gaulle, qui obéissait à Jacques Rueff. Donc vous savez, Jacques Rueff, c'était vraiment l'économiste de Gaulle et de Pompidou. C'était l'État ne doit pas dépasser 30% du PIB. Il faut des équilibres budgétaires et la dette doit rester en dessous de 30% du PIB. Il était intransigeant. Hein, bon. Et donc Giscard a été très séduit par Stolyru, qui était un type remarquablement intelligent, mais qui en fait est quelqu'un qui a popularisé Keynes. Donc Keynes, c'est une autre point de vue, c'est l'idée que l'économie n'est pas suffisante et l'État peut la stimuler en dépensant de l'argent, parce que ça se redistribuera. Et même s'il y a du déficit, la dépense de l'État stimule l'économie. Et donc c'est Giscard qui a été le premier à changer, à mettre Rueff au placard, et à lancer. Et quand vous regardez les historiques de dette sur PIB, vous verrez que c'est en 1974, elle descend depuis 1945 jusqu'à 1974 et elle remonte avec le premier emprunt Giscard de 1974.
Alors,
deuxième bêtise.
Oui. Xavier Fontanet, excusez-moi, je vous interromps parce que je voudrais simplement citer ce que vous écrivez dans la première conversation. C'est le premier chapitre, hein, cette première conversation, je rappelle, entre le grand-père. En fait, le grand-père, c'est vous, hein. Auguste, vous êtes Auguste.
Le petit-fils n'est pas né au moment des bêtises. Voilà, voilà. Donc, je ne peux pas les comprendre.
Exactement. Et le petit-fils, c'est Antoine. Alors, effectivement, vous lui expliquez l'origine des problèmes économiques de la France. Et voici ce que vous écrivez. Voilà, vous écrivez « Le changement fondamental de politique économique intervient en 1974 avec le recours à Keynes. Voilà. C'est l'événement à retenir plus que la crise du pétrole. » Mais ce recours à Keynes, c'est un recours particulièrement français. En quoi ça consiste réellement? Et pourquoi ce n'est pas bien?
Vous autorisez la dépense publique. vous autorisez la dépense publique, vous lancez les grands travaux et vous acceptez un déficit. Vous acceptez le déficit et on considère que le déficit, c'est de la dépense publique plus rapide. On accélère, on fait croître la dépense publique plus vite que l'économie. Et tout ça, c'est positif pour l'économie. C'est ça l'idée de base.
Mmh.
Et donc, oui. Et alors, en fait, il y avait la crise du pétrole à l'époque. Donc, on va dire, il faut tout à fait. Et il fallait peut-être, comme il y a eu la crise du pétrole, donner un coup de pouce. Mais prenez les Suisses, par exemple. Ils avaient le même taux de dépenses publiques et que nous en 74. Ils ont monté un tout petit peu, mais c'est uniquement pendant 2 ans. Ils ont redescendu la dette tout de suite. Donc ils ont soutenu pendant 2 ans, mais après ils ont baissé. Et c'est pour ça que la Suisse est toujours à 30% de dette par rapport aux dépenses publiques, par rapport au PIB, et leur dépense publique est toujours à 30% du PIB. Hein. Alors que nous, ça a été le débarrage de la dette, des déficits. Évidemment, les déficits, ça fait monter la part de l'État dans le PIB. Et aujourd'hui, on est à 57%, presque à 60%, alors que les Suisses sont toujours à 30%. Bon, alors la première bêtise, c'est ça. La deuxième bêtise, c'est évidemment la fallacie du temps libre. Ça, c'est Mitterrand et toutes ses équipes qui ont commencé à expliquer qu'en prenant du temps libre, on donne du travail aux autres. Hein. Donc, ça commence à dévaloriser le travail. On prend du temps libre. Alors, c'est la fallacie parce qu'on a fait croître aux gens qu'en travaillant moins, ça donnait du travail aux autres et ça fait baisser le chômage. Ça n'a pas du tout marché. Et donc, c'est installé une espèce de distance par rapport au travail. Et c'est pour ça, comme vous le mentionniez, qu'on est le pays au monde qui travaille le moins. Donc ça, c'est la deuxième fait. Et puis troisièmement, il faut quand même dire que Chirac, avec son État-providence, il a été de nouveau, on a rajouté. Donc après Mitterrand, on a continué et c'est fondamentalement l'entrée de l'État dans tout le monde social. L'État a commencé à compenser les pertes des caisses sociales du chômage, de la santé et de la retraite. Et donc, il a accepté qu'on contribue en lançant l'idée de l'État-providence. Et c'est ça qui explique pourquoi, depuis 50 ans, on est en déficit. Et donc, que la dépense publique, à chaque fois, augmente en part du PIB. Et alors, c'est là que j'ai popularisé l'idée du cheval et du jockey. C'est-à-dire que, en fait, il y a une alliance entre le privé et le public. Le privé, c'est le cheval. Le jockey, c'est l'État. Et nous avons un jockey beaucoup trop lourd. Et aucun jockey obèse n'a gagné l'Arc de Triomphe jusqu'à nouvel ordre. Et donc, nous sommes actuellement, et alors là, je peux dire ça en tant qu'industriel qui a fait toute ma carrière en ayant à tenir compte de cette montée du jockey, du poids, je peux vous dire que il suffit de demander à n'importe quel chef d'entreprise qui a une société internationale, et bien il vous dira que, évidemment, c'est en France qu'on a les charges les plus élevées, ça fait monter les coûts totaux. On a du mal à faire venir des gens de l'extérieur. Et évidemment, ça explique délocalisation et la désindustrialisation. Voilà, vous voyez. Alors, donc, on souffre de trois bêtises, 74, 80 et 87.
Alors, Xavier Fourdet,
les trois bêtises, c'est cool.
Oui, on comprend bien ces explications. En termes de coût du travail, quel est l'écart de la France par rapport à ce qu'il devrait être? Alors, les conséquences de cette politique depuis 1974, donc déficit, oui. Impôts, charges, temps de travail, ils se cumulent, ça aboutit à quoi?
Alors si vous voulez, là il faudrait vraiment des tableaux, je suis prêt pas à donner, mais je veux dire, le coût de courir, vous avez toutes les statistiques maintenant, vous regarderez toujours par rapport à tous les pays européens, la France est le pays qui a le taux horaire. Je ne parle pas des pays récemment rentrés comme la Hongrie. Oui. Par rapport à nos voisins, l'Allemagne, les Pays-Bas, on a les taux les plus élevés. Les cadres, un cadre, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher en France qu'en Allemagne et aux Pays-Bas. Et donc, la France a un coût de travail beaucoup plus élevé. Alors là, je vous conseille d'inviter Rexecode. Moi, les gens les plus sérieux aujourd'hui, c'est le groupe Rexecode. Mmh. Et si vous voulez avoir les idées claires sur tous ces sujets de coûts, c'est une équipe exceptionnel. Ils décortiquent tout et ils ont fait des très beaux papiers en expliquant que la France est le pays où on travaille le moins et c'est le pays, je parle des pays développés européens, où le taux horaire est le plus élevé.
Mmh.
Oui, évidemment. Oui. Et c'est ça qui explique la désindustrialisation. Hein.
Oui, alors, et pourtant, vous évoquez Emmanuel Macron, à qui vous avez échangé, avec qui vous avez, à qui vous avez envoyé votre livre et qui incarne un peu votre petit-fils. Hein. Et pourtant, Emmanuel Macron n'arrête pas de nous répéter que la France est très attractive. On a du mal à comprendre. Parce que d'un côté, il y a ce que vous expliquez, et il y a ce que vous expliquez, dire la France n'est plus compétitive pour toutes les raisons hein, qui sont parfaitement compréhensibles. Compréhensible encore que, parce que ça ne semble pas si partagé que ça, puisque ça dure depuis maintenant plus de 60 ans quand même, que nous sommes dans cette voie. On nous explique d'un côté que la France est vraiment attractive avec Choose France. Vous voyez, choisissez la France. Hein, Choose France à Versailles, on nous annonce plus de 70 milliards d'euros d'investissement en France. Vous voyez, la France est toujours attractive. Et il y a des sondages, des enquêtes qui sont faites auprès des patrons internationaux qui disent oui, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Alors, ils vous expliquent parce que les infrastructures, parce que la formation, parce que, etc. Et vous nous expliquez que, ben non, la France n'est pas compétitive. Alors, que doit-on croire?
Alors, attendez, faites vraiment là-dessus, faites venir des gens de Trexécote, Denis Ferrand, vraiment, parce que lui va vous donner les chiffres. Alors, effectivement, alors la France, c'est Choose France avec Versailles. Donc, c'est vrai que la France, alors en nombre de projets, on est assez bien placé, mais on a des beaucoup plus petits projets. Prenez simplement l'Allemagne. Tesla a mis une usine, il a mis 4 milliards d'euros en Allemagne, Tesla. Les grosses masses, Microsoft a mis un énorme truc de 2 milliards d'euros, c'est en Allemagne qu'il a mis. Et nous, donc, on a des projets nombreux, mais c'est des petits. Si vous regardez les masses, la masse investie et en nombre d'emplois, la France n'est pas du tout première. Donc, c'est vrai que si vous prenez le nombre de projets, on a dû être en tête. Et si vous regardez les masses, les investissements, on n'est pas du tout en tête. Alors, c'est là où il n'y a pas une très grande transparence dans les statistiques. Mais oui. Si vous voulez être des trucs sérieux, là, vous demandez à Denis Ferrand de venir. Vous allez voir, il est exceptionnel. Et il vous donnera vraiment tous les chiffres, parce qu'il y a une dizaine d'ingénieurs qui travaillent là-dessus.
Oui,
ils sont apolitiques.
Vous avez choisi dans ce premier chapitre, la première conversation, où vous plantez le décor, en quelque sorte, vous analysez les causes des souffrances de l'économie française, sa perte justement de compétitivité. Vous écrivez deux choses. Attractivité et compétitivité sont deux concepts différents. Ça, c'est la première chose que vous écrivez. Et puis, vous ajoutez, en évoquant, effectivement, c'est vous qui évoquez, Choose France, Choisissez la France et tous ces investissements merveilleux qui tombent suite à l'intervention de notre président dans la Galerie des Glaces à Versailles. La clé est de savoir ce que disent les patrons dans l'intimité de leur comité exécutif.
J'ai des amis qui sont des patrons américains,
oui,
de grandes entreprises qui ont été à Versailles. Alors, évidemment, quand ils sont interviewés, ils disent « la France est formidable » parce qu'ils ont des projets, ils ne veulent pas se faire mal voir pour avoir de l'argent. Mais quand ils rentrent dans leur comité exécutif, ils disent ce qu'ils disent, si vous voulez. Le truc, attendez, la règle la plus simple, c'est que vous prenez les PIB par tête sur 50 ans.
Oui.
Alors, chacun peut faire le travail. Vous allez sur Claude ou sur ChatGPT, vous demandez le PIB par tête d'une dizaine de grands pays européens. Vous le demandez en 1974 et vous le demandez aujourd'hui. Et vous calculez le taux de croissance. Là, vous allez voir, la France, vous enlevez l'inflation qui est de 3,2 à peu près sur 50 ans. La France n'est même pas à 1% de croissance. Les Allemands sont à 2, les Américains sont à 2,8, les Suisses sont à 3,5 et les Singapouriens sont à 6. Et ça, année après, sur 50 ans. Alors, il faut savoir, le SMIC à Genève aujourd'hui est à 5 000 euros. 5 000 euros le SMIC, alors que le SMIC était à peu près au même niveau en 1974. Donc, en fait, il y a évidemment Choose France, on est les premiers, on est les meilleurs. Il y a plein de gens qui se font photographier à Versailles. Mais regardez les chiffres les plus simples et les chiffres que chacun peut voir tout seul. Il suffit de prendre son portable et demander. Alors, vous demandez à Siri, vous demandez, et regardez vous-même les chiffres. Et ça, ces grands chiffres simples, on ne les montre pas, évidemment. Encore une fois, le truc, il est très simple. Pour moi, le SMIC Genève à 5 000 euros, ça veut dire que c'est 2,5 fois. Alors qu'on était au même niveau en 74, pour moi, ça dit tout. Parce que le rapport de 1 à 2,5, c'est la différence de vitesse entre 2,8 et 0,8.
Xavier Fontanet, oui, vous expliquez effectivement que la France, relativement à ses voisins, s'appauvrit. Vous citez l'évolution du produit intérieur brut par habitant qui est corrélé complètement au salaire. Et vous donnez l'exemple du salaire minimum suisse. Voilà. 5 000 euros à comparer au nôtre qui est beaucoup plus faible. Vous expliquez effectivement que nous vivons les conséquences de cette politique dont qui est une rupture par rapport à ce qui a été fait jusqu'en 1974. Hein, en quelque sorte, nous ne sommes plus en économie libérale depuis 1974. Et vous évoquez donc les conséquences. Et l'une des conséquences, c'est effectivement la désindustrialisation de la France. Vous citez le chiffre. Hein, en 20 ans, le taux de l'industrie dans notre activité est passé de 22 à 12%. C'est un chiffre qu'on ne retrouve pas, en effet, chez nos voisins. Donc nous sommes dans un monde sans usines.
Les Suisses sont à 26, et Suisses sont à 26, par exemple.
C'est un tout petit pays comme la Suisse, oui.
Alors les économistes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mais en pouvoir d'achat, le yaourt coûte très très cher à Genève, donc en fait, il y a beaucoup moins de différence. Alors, mais en fait, je veux dire, les yaourts à Genève, ils sont de très très grande qualité. Vous prenez un couteau à Genève, les couteaux, moi j'ai un Victorinox, il a 70 ans, il est toujours en très bon état, vous voyez, bon. Oui. Donc, en fait, on a des produits de très très grande qualité. Et puis, vous rendez compte, avec tous les... Le taux de chômage en Suisse, il doit être de 2,8. Et vous avez vu qu'ils ont quand même 500 000 personnes qui viennent tous les jours travailler. Donc ils sont au chômage négatif, les Suisses. Oui. Ils ont un taux de chômage négatif. Donc on nous raconte des tas de salades, si vous voulez.
Justement, j'aimerais vous poser cette question, Xavier Fournet, si vous le voulez bien. Donc vous parlez effectivement des conséquences de cette politique menée depuis 1974 sur la pauvreté, sur le taux de chômage, etc., l'effondrement de la compétitivité. Et vous évoquez... C'est la phrase que je lis, votre phrase. Une idée qui a fait, dans cette deuxième conversation avec votre petit-fils, une idée qui a fait énormément de dégâts, celle d'une économie sans usine. Alors, j'aimerais vous poser cette question, parce que c'est une discussion que j'ai eue récemment avec un certain nombre de personnes. Est-ce que vous évoquez l'économie sans usine? Est-ce que l'on dit, là, c'était très à la mode, notamment on pense à Alcatel, qui a promu ça.
Oui, c'est sûr, hyper sûr qu'il a dit ça.
Voilà, exactement. Alors, moi, la question que je souhaitais vous poser, est-ce que lorsqu'on évoque les bienfaits d'une économie sans usine, conséquence de la désindustrialisation, est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est un habillage d'une réalité qu'on n'a pas voulu mais qu'on a provoquée par la politique économique, la disparition des usines en France? Voilà, est-ce que c'est voulu? Ou est-ce que c'est simplement une conséquence? Et pour faire beau, on l'habille.
Non, mais on fait beau, on habille. C'est vrai que les médias ont été ravis de mettre Turuc en avant. Turuc donc, avait sa société Alcatel. Alors, on avait un leader mondial. Le français a inventé quand même l'idée d'utiliser des ordinateurs pour faire des centraux téléphoniques. C'était une idée absolument révolutionnaire. Eh bien, Alcatel était absolument leader mondial, écrasant à cette époque-là. Et petit à petit, Alcatel a complètement perdu toutes ces industries. Tout ça, ça a été délocalisé. Ils ont fini par se faire racheter par des Finlandais. Et donc je pense que je veux pas jeter la pierre, hein, parce que c'est pas mon genre. Mais là-dessus, c'est une débandade absolue ce qui s'est passé. On les compte. On avait avec le Minitel, on avait quasiment Internet. Avec les centraux téléphoniques de CID, on avait un leader mondial. Qui est complètement tombé dans les glacements. Alors, c'est très joli, l'usine sans usine. C'est exactement le genre de mot qu'on a lancé comme « quand je prends du temps libre, je donne du travail aux autres ». Alors ça, oui. Ça passe, et je pense que les médias ont une très grosse responsabilité. Ils ont trop filé le micro à des gens comme ça. Et donc, ça, petit à petit, ça fait du mal dans la tête des gens. Alors, ceci dit, je veux dire, le peuple français, il est beaucoup plus réaliste. Il commence à comprendre les trucs, hein. Et je pense qu'on voit bien dans les syndicats, on voit bien qu'ils ont compris que c'est très mauvais de désindustrialiser. Donc je pense, et moi c'est mon combat de retraité, hein. Oui. Alors je suis un des retraités actifs, hein. Il faudrait changer le mot de retraite. Je pense qu'il serait très intelligent, quand on parle de retraite, d'inventer un nouveau nom. Les Américains appellent des perennials. Les perennials, c'est les gens qui ont, vous voyez, entre 65 et allez, 80, qui continuent d'être actifs. Et la retraite commence vraiment à 80 ans, hein. Bon. Je pense qu'il faut. Ce que j'ai vécu, c'est la France conquérante. Moi, tous mes amis, c'est les boîtes qui sont devenues leaders mondiaux, les L'Oréal, les Air Liquide, les Schneider, les Dassault Systèmes, c'est tous mes amis. Et donc, on a tous conquis le monde ensemble. Donc, je pense que les Français ont un talent extraordinaire. On est tout à fait capables. Mais simplement, on est très gênés sur la France parce que les coûts sont trop élevés. Et donc, il y a vraiment un vrai travail à faire maintenant de donner un régime. Il faut que le jockey fasse un régime sportif, hein. Il faut le faire maigrir, le jockey. C'est pas de la rigueur. C'est demander de faire un régime comme font les sportifs. l'État, la compétitivité de l'État, elle rentre dans la compétitivité de l'économie. On ne peut pas avoir un État non compétitif qui tuera l'entreprise qu'il chevauche. Donc aujourd'hui, c'est l'image que je prends, il faut absolument que le jockey qui est de l'État se mette à la compétitivité. Et je vais vous dire, il y a des tas de hauts fonctionnaires qui me parlent. Monsieur Fontanet, on est assez d'accord avec vous, il y a énormément d'inefficacité, mais je leur dis, écoutez, votre boulot maintenant, entre aux fonctionnaires, prenez des retraités, nous on est prêts à vous aider, il faut que vous-même prenez en main, profitez du fait que vous êtes à la retraite, vous êtes payé pour parler, vous avez du temps, faites-nous des propositions de réforme de la sphère publique. Et alors, moi je donne des exemples, allez voir les Allemands sur ce sujet.
C'est ce que vous faites dans votre livre.
Et je propose à mon petit-fils d'aller voyager. Donc, tu veux voir comment on gagne, ben, va au Canada, voir ce qu'ils ont fait, va en Nouvelle-Zélande, va en Allemagne, et va à Singapour, et va en Suisse.
Et à ce moment-là... Oui. Xavier Fontanet, excusez-moi, nous allons parler bien sûr de la suite de vos conversations, de tous ces échanges et de les suggestions que vous faites, et vous donner naturellement les exemples de ce qui s'est... été pratiqués dans d'autres pays ou qui ont sorti justement de leurs difficultés, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Canada et puis bien d'autres exemples encore. Mais ce qui est très impressionnant quand même, et je crois que vous avez une fois posé la question, c'est quand même très impressionnant, vous faites remonter ça à 1974, depuis 1974, oui. Tous les hommes politiques, tous les dirigeants mènent la même politique économique qui aboutit à alourdir. Année après année, les coûts du travail et les charges pesant sur les entreprises. Et quand on regarde ces deux dernières années, tous les débats à l'Assemblée nationale et au gouvernement, ça va dans la même direction. Et les débats pour le budget de 2027 va dans la même direction. Comment taxer plus ? Donc on a l'impression que personne ne vous entend et personne ne vous écoute.
Alors, effectivement, vous savez, on prêche, et puis je sais que ça prendra beaucoup de temps. Je vois quand même au nombre de conférences que je fais, là encore j'ai été invité deux fois aujourd'hui, vous voyez, pour faire des conférences sur le grand-père en Bretagne. Vous voyez, bon, et donc en fait je crois qu'il y a quand même une prise de conscience. Je crois que la prise de conscience, elle arrive par la dette. Moi je fais toujours des calculs, vous savez la dette, on a une dette de 3 500 milliards. Bon, c'est très simple, la dette, je fais un calcul très simple. On est à 150 milliards de déficit aujourd'hui, en 73 à l'équilibre. Ça fait donc en 50 ans. En moyenne, le déficit, c'est 150 sur 2, ça fait 75. Vous faites 50 par 175, on tombe sur 3750. On trouve exactement la dette aujourd'hui. Alors après, je dis, mais vous savez quels sont les actifs de l'État ? En face d'une dette, combien les actifs ? Alors les actifs de l'État, c'est 4200 milliards à peu près, vous voyez ? Ça veut dire que les capitaux propres de la France... Je prends les actifs. Alors ça, c'est des nouvelles. Alors ça, ça fait secouer tout le monde. Et ils prennent conscience. Et donc, on prend conscience qu'on a maintenant, mettons, 500, 350 milliards de capitaux propres. Et on en bouffe 150 par an. Donc, on va rentrer très, très vite dans les moments dangereux. Hein. Et alors, je dis aux gens, vous savez, moi, j'ai vécu la crise argentine, j'ai vécu la crise grecque. Alors, moi, je vous calcule tout de suite combien ça fait. Et donc, toutes mes conférences en province, c'est je monte les chiffres de la France, le PIB, les dépenses sociales, les retraites, et je dis, ben, si nous manque 300 milliards, on est obligé de taper dans les retraites et dans les salaires des fonctionnaires. Et prenez ChatGPT, vous demandez ce qui s'est passé au Portugal, ce qui s'est passé en Grèce et ce qui s'est passé en Argentine, et vous allez voir, on tombe les chiffres, je calcule sur un dos d'enveloppe. Alors ça, c'est tout un travail pour expliquer aux Français que les grands chiffres, c'est très simple, en fait, qu'il faut les expliquer. Ben, ça passe par un peu de pédagogie. Alors, c'est sûr. Alors, les médias ont une très grosse responsabilité dans cette affaire. C'est une question à qui on donne le micro. Vous voyez ? Donc, c'est sûr que, alors, merci de me donner le micro, mais tous vos collègues ne sont pas comme ça. Et alors, évidemment, on donne le micro à des Piketty. Et alors là, Piketty, ben, quand vous faites de la Piketty, ça fait de la pub, et puis du coup, il y a la recette qui rentre. Bon. C'est sûr que oui. Si on m'invite, ça fait moins de
problèmes. Xavier Fontanet, malheureusement, il ne nous reste que 6 minutes à passer en votre compagnie. Il y a je voudrais bien traiter un point avec vous. C'est votre troisième discussion, d'ailleurs, avec votre petit-fils, parce que c'est aussi un sujet d'actualité. Mais auparavant, un message auditeur. Ne pensez-vous pas que la dette a été gonflée artificiellement depuis la présidentielle de Jacques Chirac afin de nous rendre dépendants d'investisseurs étrangers qui, aujourd'hui, ont le pouvoir réel ?
Oui, alors, non, alors je pense que les chiffres de... Alors, les chiffres de dette, je pense qu'ils sont calculés. Le truc, ils sont un peu plus élevés, la dette, parce qu'il y a des engagements hors bilan qui n'ont pas été comptabilisés dans la dette. Alors là, il faut que vous invitiez M. Beaufray. Alors, Beaufray est très intéressant. C'est un inspecteur des finances qui a été longtemps, je crois, directeur du Trésor. Il est à la retraite. Alors, c'est un connaisseur de tous les chiffres de l'État, de tout ça, exceptionnel. Je vous donnerai son téléphone, invitez-le, d'accord. Il est lumineux. Bon. Et ça, il va vous donner tous les chiffres sur la dépense d'accord. publique, mais moi, je suis plutôt je donne moins que la réalité est un peu pire que ce que je raconte.
Alors, j'aimerais, il n'y aurait juste que 5 minutes, hein, Xavier Fontanet, je rappelle que nous avons plaisir de vous recevoir pour votre livre « Le grand-père et le président » que vous publiez aux éditions Valeur ajoutée. Vous mettez en scène un dialogue fictif en plusieurs discussions. Une dizaine de discussions autour des grands problèmes économiques de la France entre un grand-père dont le petit-fils vient d'être élu président de la République, et ce grand-père ressemble furieusement à vous, et le petit-fils à Emmanuel Macron. Alors juste dans les 4 minutes qui nous restent, je voudrais évoquer avec vous l'exemple de l'Allemagne, parce que vous citez régulièrement en exemple, d'ailleurs c'est ce que vous faites dans ce chapitre, la manière dont Schröder a redressé la compétitivité de l'économie allemande, donc dans les années 90-95, avec justement les fameux accords Hartz. Et le corollaire de cette question, c'est que de nouveau, en 2026, l'Allemagne n'est plus compétitive du tout. Notamment, on voit l'effondrement de l'automobile allemande face à l'automobile chinoise. Donc, double question. Comment Schröder a-t-il redressé la compétitivité allemande? Et finalement, tout ça n'est-il pas extrêmement provisoire? Parce que de nouveau, l'Allemagne est confrontée à un grave problème de compétitivité. Et nous terminerons, malheureusement, cette discussion bien courte avec vous sur cette question.
Bien, je vais vous dire, c'est bien français les questions. Alors, je vais vous dire, en fait, il a remis complètement l'Allemagne debout. Et si l'Allemagne va s'en tirer, malgré les difficultés aujourd'hui de l'automobile, c'est parce que l'endettement de l'Allemagne est tellement grand, ils ont des marges de manœuvre gigantesques. Hein. Moi, je n'ai pas de souci sur l'Allemagne. Ils vont passer quelques années mauvaises. Bon, c'est essentiellement lié à un sujet sur lequel il faudrait que vous m'interviewiez, que je vous explique. C'est évidemment la montée de la Chine dans tous les produits d'automobile. Oui. Et comme l'Allemagne exportait, donc on a actuellement une bagarre entre la Chine et l'Allemagne sur l'automobile. L'Allemagne était très, très ancrée automobile, exportation d'automobile. Ils souffrent, mais ils vont tenir le choc parce que comme ils ont baissé une dette, ils ont des marges de manœuvre gigantesques.
Mais que faudrait-il qu'ils fassent ? Vous expliquez ce qu'a fait Schröder, mais que faudrait-il qu'ils fassent maintenant ? Maintenant.
Bon, attendez, là, on mélange tous les sujets. Je voudrais terminer parce qu'on ne va pas y arriver si vous ouvrez de nouveaux fronts. Il a remis l'Allemagne sur pied complètement. Il a baissé la dépense publique de 57% à 44% en 8 ans. L'endettement de l'Allemagne qui explosait, il l'a effondré. Et l'Allemagne a connu une quinzaine d'années avec une très forte croissance. Donc, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Ça a complètement marché, ce qu'a fait Schröder. Hein.
Oui, ça a marché pendant 30 ans, mais plus maintenant.
Attendez, il y a un nouveau truc qui arrive maintenant. Il faut une émission complète sur le sujet. Je suis tout à fait prêt. Ou à vous envoyer la personne, Jacques Léger, qui vous expliquera si vous voulez.
Je préfère vous entendre, Xavier Fontanet.
Attendez, alors actuellement, il y a une bagarre évidemment de l'Allemagne. Alors il faut faire aux Chinois ce que les Chinois nous ont fait. Nous sommes Essilor, nous avons une très grosse part marché en Allemagne, en Chine. Quand j'ai monté Essilor en Chine, j'ai dit aux Chinois, je suis prêt à vous monter une grosse usine à Shanghai. On va faire cette usine en délocalisant l'usine américaine, on va charger l'usine chinoise qu'on monte pour vous. On embauche 2500 personnes. Je vous demande des droits de douane de 45% pour protéger l'usine contre les concurrents. Eh bien, les Chinois nous ont autorisé à construire une usine qui a été protégée pendant 12 ou 15 ans avec des droits de douane de 43%. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire à l'Europe ? L'Europe dit, les Chinois, vous voulez vendre en France ? Eh bien, très bien, vous produisez les trucs en France, vous le faites en JV avec Renault, mais vous n'allez pas vous faire en délocaliser et vous n'allez pas vous mettre en Hongrie. Si vous voulez vendre des voitures en France, vous produisez en France. Voitures en Allemagne, vous produisez. Il faut faire exactement, demander aux Chinois ce qu'ils ont demandé. Ensuite, on a fait une très grosse bêtise en allant trop vite sur l'électrique. Moi, je pense qu'on aurait dû faire comme les Brésiliens avec l'éthanol, parce qu'on a les capacités de produire l'éthanol et se passer du pétrole. Et donc, avec le tout électrique, on a aidé les Chinois. Et le dernier truc que je ferai, je lancerai un business de reconditionnement des vieilles voitures qui ont plus de 150 000 km en électrique. Et ça, c'est ça qui enlève tout le CO2. On travaille sur la vente alors qu'il faut travailler sur le parc.
Ils avaient
Fontané. Il ne faut pas dire la réforme Schröder n'est pas bonne à cause des problèmes de la
vente. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Xavier Fontané, ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Malheureusement.
L'Allemagne a les moyens pour lutter contre la.
Xavier Fontané, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Malheureusement, nous devons nous séparer. Je rappelle votre livre, Le Grand-Père et le Président, que vous publiez aux éditions Valeur Ajoutée. Merci beaucoup à vous d'être venu par téléphone ce soir.
Merci de votre invitation. Hein, et pardonnez ma vivacité par moment. Hein, voilà.
Et merci à Stéphane, à la technique. Merci à Laurent qui a pris vos messages. Merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Très bon dimanche soir à vous tous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 21 juin 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.